Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B, les Vikings de Richard Fletcher. Au Xe siècle, les Vikings sèment la terreur sur les côtes d'Angleterre. Lors d'une bataille, Ragnar tue le roi et viole la reine d'Angleterre. De ce drame naît un fils, Eric, que la reine abandonne aux Vikings et qui sera élevé comme esclave. Mais Eric n'accepte pas la situation, ressent en lui que son destin est ailleurs. Il rencontre Einar, fils de Ragnar, et le défigure en lançant contre lui un faucon sans savoir qu'ils sont demi-frères. Une haine intense doublée d'une attirance instinctive va s'installer entre eux. Enlevée par les Vikings, la future reine Morgana va tomber amoureuse d'Eric alors qu'elle est très convoitée par Einar. L'empreinte laissée par un film tel que les Vikings est celle des jeux d'enfance où l'on s'inventait des histoires romanesques de pirates et de trésors, de valeureux chevaliers à l'honneur bafoué par un traître confortablement installé sur un trône. On peut aisément changer d'époque et de lieu, mais les récits d'aventure sont immuables, universels aussi. Ils abordent les mêmes thèmes d'un film à l'autre, héritage d'une littérature enchantresse de Robert Stevenson à Alexandre Dumas. Les Vikings puisent également son inspiration dans la mythologie grecque, en l'occurrence la tragédie des Atrides, avec comme thème central l'affrontement fratricide pour l'accession au pouvoir. Cette histoire pleine de bruit et de fureur frappe aussi par une véracité et une cruauté inédite pour un divertissement tout public. La dimension légendaire imprègne ce film de 1958 dès son ouverture avec cette voix off majestueuse d'Orson Welles, non créditée au générique, qui commence par résumer le récit de ces gens du Nord au-delà des brumes et des glaces. Ces mots, exaltés par la musique épique de Mario Nachibene, introduisent une œuvre qui n'a rien perdu de sa force au fil des années. L'adaptation du roman de Edison Marshall s'est vue confiée à Dal Wasserman et surtout à Calder Willingham, futur scénariste du Lauréat et de Little Big Man. Ce dernier dynamite de l'intérieur le schéma classique des superproductions hollywoodiennes en injectant dans son scénario une bonne dose de sadisme et d'ambiguïté, sans oublier la mission première, divertir avec une histoire abondante en péripéties et rebondissements. Au cœur d'une odyssée foisonnante mêlant complot, trahison et affrontement bellicis se joue aussi une partition plus intime, plus émotionnelle dans les rapports qu'entretiennent Eric et Einar. La haine réciproque, excessive, au-delà de la raison, traverse le récit épique jusqu'à ce que les deux hommes apprennent, trop tard, leur lien de parenté. Einar et Eric, via une lecture symbolique manichéenne, pourraient incarner les deux facettes d'un même personnage, tiraillé entre le bien et le mal. Sauf que Kirk Douglas, par ailleurs producteur, en endossant la peau de Einar, initialement donc le méchant, apporte une émotion incroyable faisant de ce guerrier brutal un animal blessé, autodestructeur, un bloc de souffrance qui ne peut vivre qu'en extériorisant sa violence. En face, Tony Curtis n'est pas non plus le héros lisse et aseptisé des grandes fresques du cinéma américain. Eric est un personnage tourmenté, aveugle, aveuglé par son désir de s'affranchir de sa condition d'esclave. Sa première rencontre avec Einar, d'entrer dans un rapport de force irrationnel, inconscient, impressionne par la violence qui anime en fait ces deux corps virils en guerre d'abord contre eux-mêmes. Ces liens du sang sont transfigurés à l'écran par la couleur rouge vive, agressive du sang qui coule à flot, rareté pour un film classé grand public. Au milieu de ces deux figures tragiques, la beauté froide de Janet Leigh illumine l'écran. La rigueur historique ne pèse jamais sur le film. Richard Fletcher a passé un an à faire des repérages. Les bateaux, les habits, les lieux sont nourris d'une exactitude d'un point de vue historique. Ce travail d'orfèvre de coller au plus près d'une réalité après bien des recherches ne souffre pas du tout du syndrome de l'authenticité. Paradoxalement, cette véracité méticuleuse s'oublie. Ce souci du détail n'est au fond qu'un détail permettant inconsciemment, par la beauté plastique de l'ensemble, d'éprouver une jubilation à suivre les aventures romanesques et barbares de ces âmes belliqueuses. Il y a aussi derrière la richesse esthétique et thématique un plaisir de se lover dans un cinéma à l'ancienne, sorte de paradis perdu où l'on ne cesse d'admirer les décors naturels. Splendeur des montagnes nordiques, bleu azur des océans traversés, verdure des paysages édifiés grâce aux technicolores de Jack Cardiff, alors au sommet de son art dans ses représentations picturales. Chaque plan est pensé comme un tableau où les couleurs explosent du cadre, que ce soit dans les plans larges ou dans ceux beaucoup plus resserrés où la tension est à son paroxysme. À l'heure du tout numérique où des pantins s'agitent sur des fonds verts, les Vikings impressionnent par la densité de son scénario, l'opacité de ses personnages de chair et de sang et l'incroyable énergie de la mise en scène très physique de Richard Fletcher. Le film ressort donc chez Rimini dans une copie splendide, alors le même master que pour le Blu-ray import, avec plein de bonus très très intéressants.
Qui
Kilderoy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère et ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.